Des chansons également. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jean, c'est la fête nationale, c'est le jour le plus long de l'année, c'est le début des vacances pour plusieurs. Et si je vous demandais à quelle couleur est-ce que ça vous fait penser tout ça, il y aurait la moitié des chances que vous me répondiez bleu. C'est tout à fait normal. Bleu, c'est une couleur qui est la préférée de la moitié des Occidentaux. Ça commence à faire du monde. Et c'est une couleur qui, comme les autres, a une histoire absolument fascinante. Qui s'intéresse à l'histoire des couleurs? Notre prochain invité, il s'appelle Michel Pastoureau et il a consacré un livre superbe à la seule couleur bleue en 2000. On l'écoute. Notre prochain invité est Michel Pastoureau, directeur d'études et titulaire de la chaire d'histoire de la symbolique occidentale à la Sorbonne. Il est auteur de plusieurs livres intéressants dont on a parlé à cette émission. Dictionnaire des couleurs de notre temps, L'étoffe du diable, un essai vraiment très intéressant qui a été repris et augmenté ces dernières années. Rayures, un magnifique livre illustré sur la symbolique des rayures. Et voici que Michel Pastoureau nous arrive avec un autre beau livre, Bleu, histoire d'une couleur. C'est publié au Seuil. Ce n'est pas de la psychologie de la couleur comme on le voit souvent, mais vraiment l'histoire de cette couleur, la couleur comme fait de société à travers la littérature, le folklore, les œuvres d'art, les vêtements, l'artisanat, la politique même, le bleu qui est la couleur préférée de la moitié des Européens et des Nord-Américains. Michel Pastoureau est en studio à Paris. Monsieur Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Alors, outre le fait que le bleu soit la couleur préférée d'une personne sur deux en Occident, quel intérêt particulier revêtait-il pour un historien comme vous?
L'intérêt pour l'historien, c'est que l'histoire de cette couleur, contrairement aux autres couleurs, c'est l'histoire d'un renversement de valeurs. Le bleu est une couleur qui compte peu dans l'Antiquité, c'est une couleur mal aimée chez les Grecs et chez les Romains. Et aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, c'est la couleur préférée de plus de la moitié de la population dans les pays d'Occident. Donc il y a vraiment un problème de renversement. Et l'historien, évidemment, est tenté de savoir comment ça s'est passé entre l'Antiquité gréco-romaine et le XXe siècle.
Oui, c'est vraiment intéressant. Vous allez même jusqu'à vous demander la question en tête d'un de vos chapitres. Les Grecs et les Romains voyaient-ils le bleu? Le bleu, et c'est vrai que c'est une couleur qui a été tardivement et difficilement reproduite. Pour quelles raisons?
Oui, ce sont les philologues du siècle dernier qui se demandaient si les Grecs voyaient le bleu, parce que c'est une couleur qu'ils ne nommaient que très rarement. Et notamment, ils ne qualifiaient pas de bleu des choses qui, pour nous, sont manifestement bleues, oui. Commençant par le ciel et la mer.
Oui.
Mais évidemment, entre la perception ou la vision d'une couleur et le fait de la nommer, il n'y a pas un rapport direct. On peut voir très bien une couleur et ne pas la nommer pour des raisons sociales ou symboliques. C'est le cas pour le bleu. Donc, chez les Grecs et chez les Romains, c'est une couleur mal aimée parce que c'est la couleur des barbares, de ceux qui habitent hors des limites du monde gréco-romain. À Rome, par exemple, personne ne s'habille avec des vêtements bleus. Avoir les yeux bleus, c'est semblable aux Germains et aux Celtes. Donc, c'est quelque chose de très dévalorisant. Pour les femmes, c'est signe de mauvaise vie. Pour les hommes, c'est un trait ridicule. C'est vraiment barbare.
Oui, oui, oui. Alors, vous l'avez dit, ce renversement, le fait que le bleu cesse d'être une couleur de second plan et qu'il devienne, et ce sont vos mots, à la mode, ça se passe au 12e siècle. Pourquoi ce renversement et comment s'est-il produit?
Oui, ce sont des problèmes compliqués. Ça se produit d'abord du côté de la théologie, de la liturgie et de l'art chrétien. Au XIIe siècle, en simplifiant un peu, on peut dire que le Dieu des chrétiens devient un Dieu de lumière et que la lumière, qui jusque-là était blanche ou dorée ou rouge, devient bleue, notamment dans les images.
Ouais.
C'est l'époque des premiers grands vitraux dans les abbatiales et cathédrales que l'on reconstruit. Les chantiers de Saint-Denis, plus tard de Chartres et du Mans, mettent en avant de très beaux tons de bleu dans les verrières. Et en même temps, dans les images, la Vierge commence à s'habiller de bleu.
Parce qu'elle n'était pas vêtue de bleu auparavant.
Non, pendant 1000 ans, d'abord son culte était relativement discret, oui. Alors qu'au XIIe siècle, on est en pleine phase d'extension du culte de la Vierge. Auparavant, elle est vêtue de sombre, du noir, du gris, du brun, du violet, parfois du bleu foncé ou du vert foncé. Et à partir des années 1100, le bleu commence à l'emporter sur toutes les autres couleurs et en même temps à s'éclaircir. On passe de tons sombres à des tons lumineux. Et par là même, la Vierge, assimilée à une personne divine, est un agent de promotion considérable de ces tons nouveaux de bleu. C'est la première qui, au fond, s'habille...
Oui, elle ose porter le bleu.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment une nouveauté. Oui. Et quelques décennies plus tard, les rois, et le roi de France peut être le premier, imitent la Vierge, notamment... Parce que le royaume de France est placé sous le patronage de la Vierge. Donc les rois de France se choisissent des armoiries à fond bleu et commencent à porter des vêtements bleus. Philippe Auguste l'a fait timidement dans les années 1200, mais au milieu du XIIIe siècle, Saint-Louis, son petit-fils, presque au quotidien, aime à s'habiller de bleu, et par là même, il lance dans d'autres cours royales la mode des vêtements bleus.
Oui, d'où le bleu royal, mais donc entendre qu'il y a un prestige, une symbolique au fait que le roi porte des vêtements bleus.
Oui, c'est ça. Si la Vierge d'abord et le roi puis les rois ensuite s'habillent de bleu, naturellement, prince, seigneur, puis l'ensemble de la société imite le vêtement royal et le bleu devient une couleur à la mode pour une bonne partie de la société européenne. Et les teinturiers font ces progrès et réalisent sur l'étoffe des tons nouveaux, des tons solides qui ne disparaissent pas avec le soleil ou les lessives, et surtout des tons très lumineux. Le bleu vraiment s'éclaircit au XIIe et XIIIe siècle.
Oui. Alors continuons dans cette passionnante histoire du bleu. Allons jusqu'au XVe siècle. Vous dites que le bleu devient une couleur morale. Que voulez-vous dire exactement par couleur morale et quelle est donc la signification sociale de ce bleu moral?
C'est la deuxième phase de promotion de la couleur bleue au XVe et XVIe siècle. Nous sommes alors dans une période de grand courant moralisateur, à la fois sur le plan social et sur le plan religieux. Et se dégage l'idée que pour le vêtement notamment, il y a des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Donc on classe les couleurs en deux groupes, ce sont les moralistes, les prédicateurs, plus tard les grands réformateurs protestants, qui distinguent dans le premier groupe le blanc, le noir, le gris, le brun et le bleu, qui sont des couleurs honnêtes pour se vêtir dignement. Et dans le second groupe, le rouge, le jaune et le vert, qui sont des couleurs déshonnêtes, des couleurs qui flash trop, on dirait aujourd'hui, et dont il vaut mieux s'abstenir. C'est quelque chose qui a l'air de rien, mais qui en fait a des conséquences sur les pratiques vestimentaires, et notamment à l'époque de la réforme protestante, puisque Calvin, Zwingli, Mélenchon, chez les luthériens, reprennent ce classement, et le bleu voit sa place augmenter dans le vêtement quotidien, dans le vêtement jugé digne et moral, et le rouge, au contraire, sa place reculée, spécialement dans le vêtement masculin.
Cette notion de couleur préférée dont on parlait en début d'entrevue, Michel Pastoureau, elle intervient au 18e siècle. Le bleu devient la couleur préférée de l'Occident. Comment?
Oui, enfin, je pense qu'elle existe auparavant, mais l'historien n'a pas tellement de prise pour déterminer avec des statistiques, si je puis dire, quelle est la couleur préférée. Il sent bien que c'est le rouge jusqu'au XVIIIe siècle et qu'à partir du XVIIIe siècle, c'est le bleu qui commence à remplacer le rouge comme couleur préférée partout en Europe et dans le continent nord-américain. Les statistiques chiffrées ne datent que du XIXe siècle, mais dès l'époque romantique, sans se tromper, on peut mettre en valeur le fait que le bleu est peut-être même déjà loin devant toutes les autres couleurs, la couleur préférée, la couleur la plus portée dans le vêtement, la couleur omniprésente dans le décor de la vie quotidienne, dans l'ameublement, sur un certain nombre d'objets. D'ailleurs, l'époque romantique elle-même voue un culte très grand à la couleur bleue. Poètes, littérateurs, artistes mettent en valeur cette couleur, à commencer par Goethe, qui en fait l'habit de son héros, le jeune Werther, dans le roman Les souffrances du jeune Werther. Werther porte un habit bleu et le roman ayant eu un succès absolument inouï, tous les jeunes gens d'Europe et d'Amérique s'habillent de bleu pendant une quinzaine d'années à l'image de Werther.
Oui, le bleu du drapeau français, l'analyse que vous en faites est vraiment intéressante. Le bleu militaire, donc le bleu politique, le fait que dans la déclinaison des bandes bleu, blanc, rouge, le bleu soit celui qui soit le plus immédiatement lisible, le plus près de la hampe du drapeau. Pourquoi donc ce bleu sur le drapeau français?
Oui, ce bleu vient de loin, en fait. À l'origine, il y a le bleu de la Vierge, devenu le bleu des rois de France, couleur héraldique des rois de France. Puis ce bleu royal est devenu la couleur de l'État, et puis même la couleur de la nation au XVIIIe siècle. Et quand la République est fondée en 1792, ce bleu monarchique au départ devient très naturellement républicain puisqu'il était la couleur nationale, et il commence à s'opposer au blanc, justement, des partis monarchistes. Mm-hmm. On a en Vendée la guerre des blancs et des bleus, les soldats de la République étant vêtus de bleu. Donc il y a une longue histoire qui fait de ce bleu la couleur de la nation, et même quand est constitué le drapeau tricolore en 1794, le bleu semble une couleur plus importante que les deux autres. D'ailleurs, en rédigeant mon livre, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas et qui est relativement intéressant. En milieu militaire français, quand on descend les couleurs, quand on descend le drapeau du mât et qu'on plie le drapeau avec une certaine liturgie solennelle, le bon usage veut que l'on cache le rouge et le blanc et qu'on ne voit que du bleu dans le produit fini.
C'est curieux. Alors, ce sont des militaires qui font ça, alors que le bleu, vous le soulignez dans votre livre, Michel Pastoureau, c'est aussi la couleur de la paix. On pense bien sûr au casque bleu. Pourquoi le bleu est-il la couleur de la paix aujourd'hui?
Je pense que cela est venu de ce que le bleu a perdu une partie de sa force symbolique, est devenu une couleur consensuel dans le monde occidental et par là même une couleur neutre qui n'agresse personne, qui ne transgresse rien. Et donc les grands organismes chargés de promouvoir la paix, comme l'ONU ou comme l'UNESCO ou comme le Conseil de l'Europe, choisissent un emblème ou un drapeau bleu pour promouvoir cette paix entre les peuples. Mais ce faisant, ils rejoignent une symbolique plus ancienne de la couleur bleue, puisque dès la fin du Moyen-Âge, ce bleu pacifique, ce bleu couleur de paix est présent dans quelques documents.
Mm-hmm. Et pourquoi, à votre avis, les petites pilules de Viagra sont-elles bleues? On aurait pu choisir n'importe quelle autre couleur. Le bleu, pourquoi?
Là, je pense que c'est le bleu masculin qui est concerné.
Bon.
C'est un bleu qui s'oppose au rouge, et à partir du XVIIIe siècle, peut-être du XVIIe siècle, il y a quand même l'idée que le bleu est masculin et le rouge féminin dans la culture occidentale. Donc le Viagra, pour l'instant, ne s'adresse qu'aux hommes, donc il a à voir avec le bleu.
L'explication en vaut beaucoup d'autres, c'est celle d'un historien. Michel Pastoureau, votre ouvrage est vraiment magnifiquement illustré. Les propos sont absolument passionnants. Le livre s'appelle Bleu, histoire d'une couleur. C'est publié au Seuil et c'est vraiment un très beau cadeau pour les fêtes. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin.
Merci à vous.
Au revoir.